Manu dans le 6-10.
C'est Manu sur Énergie. Et c'est tous les matins sur Énergie.
Voici les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose.
Et on va parler vibromasseur pour commencer.
On est agrandi sur le pénis, vibromasseur, on est bien.
Ouais, c'est ça, dans le même thème. Au début du 20e siècle, le vibromasseur électrique était le 5e appareil électroménager le plus vendu aux États-Unis.
Quand ça, attends, à quelle époque?
Au début du 20e siècle, donc il y a vraiment longtemps. Hein. C'est pas si récent,
vibromasseur. Le vibromasseur électrique?
Ouais.
Attends, et ce succès au début du 20e. Mais donc, en 1900.
Ouais, c'est ça, au début du 20e siècle.
C'est dingue.
Et bah non, mais il y a longtemps.
Ouais, c'est vieux, c'est un vieux truc. Les années 1920, quoi. 1920-1930.
Il y avait déjà les vibromasseurs électriques.
Et déjà à l'époque, et ce succès.
À pile?
S'expliquait. Non, peut-être ça se branchait, je sais pas comment ça fonctionnait.
C'est chelou.
Ouais, et ça s'expliquait par le fait qu'il était promu par les publicitaires comme un appareil de santé destiné à retendre la peau des joues ou encore à se masser le dos. Et donc en fait on disait
le vendait comme ça.
Ouais, il le vendait comme ça. Il disait pas que c'était pour prendre du plaisir.
Mais les gens qui l'achetaient savaient ce que c'était ou ils croyaient vraiment que c'était
entre femmes. Je crois que le mot se passait.
Genre, j'ai acheté le masseur pour joues, mais j'ai découvert un truc de dingue.
C'est ça.
Si tu le ça te non.
Et depuis, la pub a rejoint la réalité parce qu'il y a eu des études sur le sujet et réglé sur une intensité modérée, les stimulateurs, donc les vibromasseurs, peuvent s'utiliser sur le contour des yeux pour favoriser la circulation sanguine et enlever les poches sous les yeux.
Oh, mais, c'est génial. Oh,
c'est génial, mais t'as l'air un peu con dans le bus, non?
Oui, non, tu le fais chez toi.
D'accord. Okay.
Oh, mais c'est fou.
Eh ben, elle aime beaucoup, Isabelle.
Elle va tester, tu nous diras.
Ah, mais carrément.
Une autre info.
Une histoire incroyable qui s'est passée en 1996. Thomas Martin est directeur d'un restaurant Jack in the Box. Jack in the Box, c'est comme McDonald's. C'est un fast-food très connu aux États-Unis. Ça se passe en Californie. Il signale à la police un vol dans son magasin, puisqu'il est les directeurs, et un vol au cours duquel le voleur s'est emparé de la caisse qui contenait 307 euros. Ok, alors que le magasin est en train de fermer, le voleur vient, prend la caisse.
C'était pas une grosse journée du coup.
Et non, c'était pas. Mais à l'époque c'était beaucoup. À l'époque c'était un peu plus en 96.
Ah d'accord.
Voilà. Lors de son dépôt
beaucoup,
de plainte.
Bah, bon.
Lors de son dépôt.
Enfin, en plus c'était pas en euros, c'était en francs. Et puis oui. Ça c'était en dollars plutôt.
Mais oui, c'était en dollars, mais j'ai fait la conversion du coup.
Oui, mais enfin bon, avec le crack boursier.
Manu.
Bref, laisse-moi finir l'histoire.
Attends, j'ai encore pas parlé de la bulle. Non, on le connaît, la bulle internet du début des années 2000, hein, avec les startups qui a explosé. Enfin bon.
Mais on s'en fout, c'est pas ça l'histoire.
Écoutez, monsieur, les Français veulent des chiffres.
Mais c'est pas ça l'histoire.
Ah bon, d'accord, pardon.
Thomas Martin, le directeur, il dépose la plainte, ok, au commissariat. La police lui demande de décrire le suspect pour faire le portrait robot du malfrat.
Oui.
Et une fois que le dessinateur finit son portrait robot, il dit à Thomas Martin, le policier, il dit ah tiens, c'est quand même marrant, il vous ressemble beaucoup. Le portrait robot que vous venez de me décrire. Mmh. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il avoue, il dit, en fait, c'est moi qui ai volé les...
Mais non.
Non.
Si. En fait, je sais pas, il a dû paniquer.
Il est nul.
C'est le pire voleur, je pense.
Mais en plus, quand tu fais un portrait robot, invente un truc.
Bah,
je sais pas, il a une moustache, il a une barbe, il a... Il est nul.
Lui, il s'est décrit, et ensuite, il a avoué dès qu'on lui a dit, ça vous ressemble.
Il a pas supporté.
Ah, c'est le pire.
C'est une très belle histoire.
On finit par une question que vous m'avez posée comme tous les jours sur l'application Meilleur 6-10. Et aujourd'hui, une question de Suzu sur une expression qui est pas vraiment de saison.
J'aurais voulu demander à Glandu pourquoi on dit il fait un froid de canard. Les canards, ça a pas froid?
Mais je ne sais pas.
Eh bien, moi non plus, je ne savais pas. Je me suis renseigné. Alors, il y a deux explications possibles pour cette expression. Ça vient possiblement de la chasse au canard qui se pratique à l'automne. Et le chasseur, quand il chasse le canard, qu'est-ce qu'il fait? Il reste immobile aux aguets et le froid lui pénètre jusqu'aux os. D'où l'expression peut-être le froid de canard. L'autre explication, c'est que la croyance populaire veut que par très grand froid, les canards peuvent avoir leurs pattes pris dans la glace, pris par les plans d'eau, tu vois, dans la glace. Et donc l'expression
prise
dans la glace, pardon.
Oui, oui, oh, c'est un
et donc ça pourrait être une contraction.
C'est du féminin. Oui. Pour être très basique, on est sur du féminin pluriel, donc les pattes sont prises.
Et donc l'expression il fait un froid de canard pourrait être la contraction. Il fait un froid à en geler les pattes d'un canard.
Ah ouais.
Qu'on a réduit, c'est un peu trop long.
Il fait un froid de canard. On l'a bien réduit là. Il fait un canard. Ok.
Donc voilà. Et dans d'autres pays, ils disent il fait un froid d'ours. Et au Pays de Galles, ils disent un froid à geler un paix. J'aime bien aussi. On peut garder ça.
Mais est-ce que ça c'est possible?
Eh ben ça, j'ai pas mené l'enquête.
Quel beau cadeau en plus, regarde.
Oh,
un paix gelé.
Bienvenue sur Énergie.
Waouh, waouh, on vous écoute.
C'est Manu dans le 6-10.
Énergie.